France Inter. Le dessinateur, écrivain, éditeur, directeur et créateur des cahiers dessinés Frédéric Pajac est aussi commissaire d'exposition, documentariste et co-créateur du Festival du dessin à Arles avec Vera Michalski, éditrice des formidables et slavophiles éditions Noir sur Blanc, où paraît dans deux jours l'essai illustré de notre invité Nietzsche au piano. Dedans, les tourments du philosophe qui lutte contre à peu près tout. Les vulgarités de son siècle, les déceptions humaines et les maux physiques qui le consument. Sa grande passion, bien avant la pensée, c'est la musique. Elle est un asile pour celui qui compose dès l'âge de 14 ans, mais qui ne trouvera jamais de reconnaissance dans le domaine le plus important pour lui. Ses velléités seront même bafouées par l'impitoyable pianiste et chef d'orchestre Hans von Bülow, sans compter le terrible chagrin d'amitié qu'il vivra avec le compositeur Richard Wagner, musicien idolâtré puis honni avec la même intensité. Bonsoir et bienvenue dans Grand Canal.
France Inter, Grand Canal, Eva Bester.
Bonsoir Frédéric Pajac.
Bonsoir.
À quoi avez-vous le plus pensé aujourd'hui ?
Aujourd'hui, à ma venue ce soir.
Ah oui ? Avec oui. Inquiétude, avec
non.
Réjouissance ?
Oui, réjouissance.
Ah,
oui.
J'espère.
Oui, oui.
Alors, on va parler du rapport de Nietzsche à la musique, mais commençons par le vôtre. Votre père, qui était artiste peintre, était fou de jazz, en jouait au piano, possédait des milliers de disques, et je crois savoir que vous en écoutez en dessinant.
Alors ça m'arrive, oui, mais j'écoute pas que du jazz, j'écoute aussi de la musique classique.
À chaque fois que vous dessinez, ou ça vous arrive de dessiner
non,
en silence ?
Non, je peux dessiner en silence, oui, oui.
Vous dites, Frédéric Pajac, pensez musicalement vos dessins.
Ben, y a un rapport entre le dessin et la musique, comme il y a un rapport entre l'écriture, et notamment celle de Nietzsche, et la musique. Je dis dans mon livre que Nietzsche est musicien jusque dans ses livres, et je dis même que ses livres ressemblent à des symphonies. Il y a une construction du livre qui ressemble à des symphonies, quoi.
Mais vous éludez la question, vous, dans vos dessins. Où voyez-vous la musique ? Dans le rythme de
l'encre ? Dans le rythme, oui, dans le rythme des... Surtout quand je dessine des forêts, des choses comme ça, oui, il y a des plantes et tout ça.
Une densité.
Voilà, il y a un rythme qui est... En fait, qui va de pair avec la musique que j'écoute.
D'accord, elle vous influence.
Oui.
Alors, dans un article de l'Obs, on peut lire que jeune, vous avez vécu, je cite le texte, en Californie, chez une dame qui organisait des partous en plein air à grand renfort de marijuana dans le cadre d'une secte de musicothérapie.
Mmh.
Vous pouvez raconter un peu cet épisode, Frédéric Pajac ?
Eh bien, c'était assez étonnant parce que c'était dans cette très belle nature qui est entre San Francisco et Los Angeles, où on a des arbres absolument immenses. Et puis, je connaissais en fait la responsable de ce centre de musicothérapie, qui était en fait une discipline ou une secte naissante, ça ressemblait plus à une secte. Et donc j'y suis allé, j'ai été invité à passer plusieurs jours, et c'était assez fou parce que les gens arrivaient le vendredi soir, et puis posaient leur voiture, rangeaient leur voiture, et puis en fait après ils commençaient à danser, habillés au départ, à danser en ronde, comme ça, ils se tenaient, il y avait une musique dans la forêt, donc, une musique très rythmique, et puis petit à petit, ils dansaient jusqu'à rentrer en transe, et puis à la fin du deuxième jour, tout le monde était nu, et voilà, il se passait beaucoup de choses sexuelles. Et c'était et puis après ils rentraient chez eux en voiture, ils s'étaient défoulés en fait. Et il y avait aussi une femme qui faisait sa thérapie dans une niche à chiens, où elle était couchée dans la niche et elle écoutait du Beethoven très fort dans sa niche. Elle était couchée, elle passait toutes ses journées à écouter Beethoven dans sa niche à chien.
Vous avez participé à certaines des
non,
activités ?
Non, j'ai contemplé, mais je n'ai pas, j'ai pas participé.
Vous croyez au pouvoir de la musique ? Est-ce que ces gens étaient désinhibés uniquement grâce à la musique ?
Alors, oui, Oui, bien sûr. Et la danse, hein. C'était mélangé avec la danse. Parce qu'ils se touchaient quand même, il y avait quand même un rapport physique. Mais la musique était un peu le moyen de s'exalter, quoi. Mais la danse était vraiment le moyen de communiquer, quoi.
Vous avez déjà, vous, ressenti une exaltation par la musique ?
Oui, ça m'est arrivé, oui, 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 oui.
Et que si tu l'appelles, elle t'accompagnera. Toi qui as cassé les coups, si un jour tu décides de t'offrir au vide, tu seras mon étoile. Je hisserai les voiles. Tu seras mon étoile. Je hisserai les voiles. Si la mer te ravit, tu régneras. Si un jour perdu je t'appelle, tu me protégeras. Toi qui encaisses les coups, si un jour tu décides de t'enfuir au vide, tu seras mon étoile. Je hisserai les voiles. Tu seras mon étoile. Je hisserai les voiles. Toi qui encaisses les coups, si un jour tu décides de t'enfuir au vide, tu seras mon étoile. Le son dans mes veines. Et si la tristesse t'entraîne et que tu quittes la reine, je serai diluvienne. Toi qui encaisses les coups, si un jour tu décides de t'enfuir en vide, tu seras mon étoile. Je hisserai les voiles. Tu seras mon étoile. Je hisserai les voiles. Toi qui encaisses les coups, si un jour tu décides de t'enfuir en vide, tu seras.
Clara Isé, le morceau L'Étoile.
Grand Canal. Eva Bester. Sur France Inter.
Frédéric Pajac, ce n'est pas la première fois que vous consacrez un ouvrage à Nietzsche. Il y a eu Le Magistral, l'immense solitude, où il partageait l'affiche avec Pavézé. Il y a eu J'entends des voix. Il fait des caméos un peu partout dans plusieurs de vos ouvrages et vous publiez Nietzsche au piano dans 2 jours sur son rapport à la musique. N'êtes-vous jamais lassé de ce compagnonnage débuté lorsque vous aviez 17 ans ?
Eh bien non.
Très bonne réponse.
Je dois dire que je relis chaque fois, je relis régulièrement, et je relis toujours, je découvre toujours des choses nouvelles chez lui. Et évidemment, je savais qu'il avait composé et qu'il était un grand pianiste, mais je ne m'étais pas vraiment penché sur ce sujet. Et en fait, c'est pas très connu, sa musique n'est pas très connue, et elle mérite de l'être quand même.
On va en écouter.
Oui.
Enfin, pas tout de suite, mais ce qui m'intéresse, c'est que vous venez de dire que c'était un grand pianiste. Or, oui. Dans votre ouvrage, Frédéric Pajac, on voit surtout les critiques, les détraqueurs de Nietzsche.
Oui, parce que je pense qu'il y a une part de... En fait, on ne comprenait pas qu'un philosophe et un poète deviennent musiciens. C'est-à-dire, les musiciens, c'était des musiciens, point à la ligne, quoi. Et donc... et puis Wagner était quelqu'un, dans sa relation avec Nietzsche, c'était quelqu'un qui avait l'âge de son père, déjà, et c'était quelqu'un de très imbu de lui-même, très autoritaire, très vraiment dur avec Nietzsche, quand même. Et Nietzsche qu'il admirait, au départ. Et donc, je pense qu'il supportait pas que Nietzsche compose la musique, quoi.
On va revenir à ce drôle de pistolet de Wagner. Votre première lecture de Nietzsche, Frédéric Pajac, c'est Ainsi parlait Zarathoustra, et au début, vous ne comprenez rien.
Bien non, je dois avoir 17 ans par là autour. Et je suis attiré par le nom Friedrich Nietzsche. Je trouve que c'est un peu comme Malevitch. Voilà, il y a des noms comme ça qui m'attirent profondément. Gogol. Et donc, ce nom, je ne savais pas si c'était un Allemand ou quelqu'un d'un Autrichien. Je ne savais pas trop. Et puis j'ai acheté, comme un adolescent achète des livres, quoi. J'ai acheté et puis j'ai lu. Et franchement, j'ai pas compris grand-chose. Mais j'ai eu beaucoup d'émotions quand même à lire. J'ai compris que c'était un écrivain. J'ai compris que c'était extrêmement bien écrit et que c'était... Voilà, des grandes... Zarathoustra, c'est des grandes métaphores. C'est un livre d'un exalté. C'est le livre d'un exalté. Et après, je l'ai relu par la suite. Et puis, j'ai finalement décidé de tout lire Nietzsche dans l'ordre. C'est-à-dire depuis son premier livre jusqu'à son dernier livre.
Sur un tabouret à Pékin.
Sur un tabouret à Pékin.
Pourquoi?
Ouais. Parce que j'étais en Chine. J'ai fait un long voyage en Chine. Quand j'avais, 28 ans, quelque chose comme ça. Et puis, j'avais pris avec moi, dans ma valise, j'avais pris les œuvres complètes de Nietzsche. Et je m'étais dit, vous savez, c'est un peu comme un défi. Je me suis dit, je connais rien, Nietzsche, il faut que je le lise, il faut que je le comprenne. Et donc, je me suis lancé là-dedans, et j'ai eu un plaisir fou à voyager dans toute une partie de la Chine, notamment dans la Chine du Nord, en Mongolie et tout ça, toujours en lisant du Nietzsche. Je trouvais qu'il y avait une satisfaction.
Vous avez un aspect un peu encyclopédique, Frédéric Pajac, puisque je sais que quand vous découvrez un musicien, vous écoutez absolument tout, et puis quand vous voulez écrire sur quelqu'un, vous lisez absolument toute son œuvre et ce qui a été écrit sur lui.
En principe, oui, j'essaye d'aller jusqu'au bout, parce que, en fait, moi, j'ai commencé à lire assez tard, parce que je ne suis pas allé à l'école. J'ai arrêté l'école à 13 ans et demi. Et donc, j'ai perdu beaucoup de temps. C'était quand même une grave lacune, quand même, que j'ai vécue. Et donc, je me suis mis à lire un peu en autodidacte, comme ça, tardivement. Et en fait, je n'aimais pas picorer. J'aimais pas lire un peu de tout, et puis j'aime pas les gens qui lisent les quatrièmes de couverture, par exemple. Et donc, pour mes livres, chaque fois que je fais un livre sur un écrivain ou sur un philosophe ou sur un artiste, eh bien, j'essaie de m'intéresser à lire tout et aussi ce qu'on a écrit sur. Moi, ce que j'aime beaucoup quand je travaille sur un auteur, c'est vraiment la correspondance, c'est le journal intime, c'est ce que je préfère, en fait.
On va écouter la musique de Nietzsche, mais juste avant, parlons de son écriture une minute. Frédéric Pajac, vous dites y retrouver les échos des moralistes français que vous affectionnez. Vous dites que Nietzsche écrivait en français avec des mots allemands.
Oui, parce qu'il y a il avait une bibliothèque d'ouvrages français très importante. Il y a même un livre qui a été consacré à ses lectures françaises, un livre très savant d'ailleurs. Et on voit qu'il aimait le français, et que son rêve, qui n'a pas été réalisé, c'était d'aller à Paris. Et il avait une folle envie d'aller à Paris. Et c'est vrai, quand il a commencé à découvrir assez tard, notamment Stendhal, et puis tous les moralistes français qu'il a vraiment, Champfort, La Bruyère, Vauvenargues, Joubert, et j'en passe, il a été saisi par ce sens de l'aphorisme et qu'il a évidemment utilisé abondamment dans son œuvre, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de fulgurance comme ça, ce que permet l'aphorisme.
Une composition de Nietzsche qui sera jouée, Frédéric Pajac, lors de votre lecture musicale avec la pianiste Mathilde Peskin à la Fondation Jan Michalski à Montrichet en Suisse le 25 janvier prochain, Daggett Einbach, par Michael Krucker.
Et ce sera joué aussi à Paris. À la Cour Parfait, qui est une petite salle de musique très dans le 18e arrondissement. Et là, on fera plusieurs représentations.
Vous avez les dates ?
Ce sera en février, je ne sais pas les dates exactes.
D'accord. Un jour, par curiosité, vous écoutez une petite pièce pour piano de Nietzsche et ça vous émeut ?
Oui, parce que je trouve que c'est une musique qui m'a beaucoup étonné de sa part, qui est une musique très romantique. Et je dis souvent que c'est une musique d'adolescent, en fait. C'est pas la musique d'un homme mûr. C'est vraiment une musique d'adolescent et c'est une musique un peu hésitante, comme ça, un peu que je trouve très émouvante. Et j'ai beaucoup aimé cette musique.
La thèse de votre ouvrage, Frédéric Pajac, c'est que Nietzsche est musicien avant tout. Et vous citez une lettre au compositeur allemand Peter Gast. Nietzsche a 40 ans et il confie « La musique est de loin la chose la plus précieuse. Je souhaite plus que jamais être musicien. » Ça lui tenait à cœur plus que tout le reste.
Oui, c'est ce qu'il dit. Mais je pense que la poésie était importante pour lui parce qu'on vient de publier récemment toute sa poésie complète. C'est quand même très important. Hein. Et on ignorait tout ça. Enfin, en français, on ne connaissait pas toute cette poésie. Il était vraiment un artiste, quoi.
Vous brossez un portrait de l'enfance à la mort à travers le prisme musical. Et ce qui frappe, c'est qu'à l'inverse du langage, la musique reste fidèle à Nietzsche, comme on va le voir. Enfant, il ne parvient pas à parler comme ça de son âge. Il faut l'intervention du médecin de famille.
Oui, il est trop choyé par sa maman.
Et ça le rend muet ?
Oui.
Ça ne vous étonne pas, Frédéric Pajac ?
C'est rien de méthode.
Ah bon ? Je suis sûre que je peux trouver. Sa mère descend d'une lignée de pasteurs, il n'a plus son père ni son frère, et vous dites qu'il a une élocution d'ecclésiastique. Comment avez-vous découvert ce détail ?
C'est plusieurs témoignages de gens qui disaient qu'il avait une manière très affectée, il parlait comme un pasteur. Et même à l'école, ses camarades se moquaient de lui, parce qu'il avait cette élocution très précieuse, comme ça, très sirupeuse. Et il a gardé toujours cette espèce d'extrême politesse, ce qui est d'ailleurs étonnant, parce que ses écrits ne sont pas polis. Donc, mais de toute façon, Nietzsche, ce qui est intéressant chez lui, c'est que c'est un être totalement paradoxal, quoi.
Oui, il se contredit même.
Il se contredit tout le temps, oui. C'est ça qui est riche chez lui.
On va écouter aussi des morceaux que Nietzsche affectionnait. Nietzsche ressent un éblouissement en écoutant la Passion selon saint Matthieu de Bach. Là, on l'entend par l'ensemble Consentus Musicus de Vienne, dirigé par Nikolaus Arnoncourt, avec la contralto Bernarda Fink qui va arriver un peu plus tard. Hélas, je parle trop vite. Quel est le rapport au sacré de Nietzsche ?
Eh bien, c'est étonnant parce que lui qui a tué Dieu, personnellement presque, en fait, il a une... Il est rentré dans la musique, en fait, par la musique sacrée. Parce que dans l'église de son père, il y avait beaucoup de chants, de musique, etc., comme dans toutes les églises, d'ailleurs. Mais il chantait, et assez rapidement, il s'est mis à jouer du piano et à composer. Mais c'est vrai que chez lui, la musique, c'est d'ailleurs paradoxal parce que lui qui s'est attaqué à Luther, au réformateur Luther, il considère que la musique de Luther, c'est la plus belle musique, c'est celle qui a donné la grande musique allemande.
Est-ce que vous auriez la gentillesse, Frédéric Pajac, de lire un petit extrait de votre texte, Nietzsche au piano, où Nietzsche décrit justement son rapport à la musique et ce qu'elle apporte à l'être ?
Si Dieu nous a donné la musique, c'est d'abord pour qu'elle nous aide à nous élever plus haut. Elle possède tous les pouvoirs. Elle peut nous exalter, nous divertir, nous rasséréner, ou briser le cœur le plus rude par la douceur mélancolique de ses accents. Mais sa destination principale est de diriger notre pensée vers ce qui est au-dessus de nous, d'élever notre âme et même de nous ébranler. Si la musique ne sert qu'au divertissement ou à la vaniteuse ostentation, elle est coupable et nuisible. Ce double défaut est pourtant très fréquent. Toute la musique moderne en est envahie.
Nietzsche affectionne aussi Mendelssohn, Mozart et Schumann, dont on entend l'oiseau prophète par Dino Ciani. Pensez-vous, Frédéric Pajac, qu'il ait déjà éprouvé de la jalousie ou de l'envie à l'égard d'autres musiciens ? On va parler de Wagner en détail tout à l'heure, mais d'autres ?
Je ne crois pas que c'était dans son tempérament, la jalousie. Ce n'est pas quelqu'un d'envieux. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans le ressentiment. C'est quelqu'un qui est dans une sorte d'action perpétuel de l'action de s'exprimer. Donc, il croit à ses qualités de musicien, même s'il se fait rabrouer un peu partout, mais il y croit, il est convaincu d'avoir quelque chose à dire en musique.
Nocturne de Chopin numéro 5 en fa dièse majeur par Arthur Rubinstein. Tout à l'heure, Frédéric Pajac, vous qualifiez Nietzsche de romantique et lui, justement, en musique, aime les romantiques Beethoven, Liszt, Chopin. Et en parlant de Chopin qui est polonais, Nietzsche ira jusqu'à se déclarer de sang polonais, une affabulation totale. Est-ce que ça vous flatte, vous, Frédéric Pajac, dont le nom est polonais ?
Oui, au départ, j'y ai cru qu'il était polonais. Donc, oui, j'y ai absolument cru et puis ça m'a fait plaisir. J'étais déçu quand j'ai appris qu'en fait, il était allemand.
Alors, contrairement à vous, le dessin est pour Nietzsche un supplice. Enfin, je crois que votre rapport au dessin est complexe et qu'il vous éprouve physiquement.
Oui. Oui, moi, je dessine pas pour le plaisir.
Mais ça, c'est très étonnant.
C'est particulier. Moi, je dessine d'abord très peu. Je dessine l'été.
Deux mois par an. Intensivement,
jusqu'à vraiment, je recherche une sorte de transe dans le dessin, je cherche une sorte d'état second, quoi. Comme une hypnose aussi. Donc, je dis souvent que l'écriture, c'est la conscience. Pour moi, c'est la conscience, c'est-à-dire qu'il faut écrire le plus clairement possible, le plus simplement possible. Et par contre, le dessin, c'est l'inconscience. Il faut aller chercher au fond de soi-même des traits, des formes, des ombres, tout un enchevêtrement de traits. C'est très particulier, le dessin. Enfin, pour moi, hein, parce que, évidemment, comme je suis éditeur de dessinateurs, chaque dessinateur a sa... La plupart des dessinateurs dessinent tout le temps.
Et ils aiment ça.
Ils aiment beaucoup ça, ils ont beaucoup de plaisir.
Et pas vous ?
Non. Mais j'ai une satisfaction, mais c'est pas la même chose, le plaisir et la satisfaction. J'ai une grande satisfaction.
Après ?
Quand j'ai fini, j'ai l'impression d'avoir fait ce que je devais faire.
Pourquoi continuez-vous à dessiner alors ?
Pour faire des livres.
Mais vous pouvez en faire en écrivant uniquement ?
Oui, Ben celui-ci, est pratiquement, il y a juste 8 dessins.
Ouais.
Mais
ils sont très beaux.
Oui, merci. Mais sinon, j'aime bien le mélange de textes et de dessins. C'est un peu ma marque de fabrique. Et puis, c'est quelque chose qui est naturel pour moi. Et j'aime bien ces deux langages qui s'affrontent, qui ne vont pas ensemble, en fait, qui font appel à des émotions très différentes de la part du lecteur.
You're always where you leave yourself. 6 feet in the sky. True love at your fingertips.
Le morceau Dreaming.
Grand Canal. Eva Bester sur France Inter.
Frédéric Pajac, nous évoquons votre livre Nietzsche au piano, et dedans il est évidemment question de la grande rencontre de Nietzsche, plus importante peut-être qu'une histoire d'amour, enfin c'en est une, comme toutes les grandes amitiés, Wagner. Prélude des maîtres chanteurs de Nuremberg, de Wagner, interprété par l'orchestre de l'opéra allemand de Berlin, dirigé par Eugen Jochum. En 1868 a lieu la première rencontre de Nietzsche et Richard Wagner à Leipzig, et va s'installer un triangle amoureux platonique et complexe, car la future épouse de Wagner est Cosima, la fille de Franz Liszt, encore épouse du chef d'orchestre Hans von Bülow, qui va pulvériser Nietzsche. Et je viens de citer trois noms extrêmement importants dans la destinée musicale de Nietzsche. Et amoureuse.
Oui, parce que bon, Wagner, c'est le coup de foudre, mais c'est un jeune homme. Comme je disais tout à l'heure, il a l'âge de son père. Et il y a une grande différence d'âge, donc quand même. Et puis lui, il est un petit professeur de 24 ans, 25 ans, à Bâle, quand même professeur de philosophie, hein, enfin de philologie, pardon. Et mais enfin, il est professeur à l'université. Mais Mais Wagner a aussi un coup de foudre pour Nietzsche. Et quand Nietzsche publie La naissance de la tragédie, enfantée par l'esprit de la musique, il est comme épaté par il voit à qui il a affaire. Il voit que c'est pas n'importe qui, que c'est déjà de la philosophie. Et en fait, il y a peut-être, enfin, je suis pas assez psychologue, mais il y a peut-être une forme de rivalité entre eux qui va s'installer. Et c'est vrai que Nietzsche est fou amoureux de Cosima, et c'est une grande amitié qui va naître entre eux. Et d'ailleurs, ils vont beaucoup s'écrire, et Cosima Wagner va détruire toutes les lettres. Donc on ne sait pas du tout quelle est la nature de leur relation, enfin épistolaire en tout cas. Et bon, évidemment, ça va mal se terminer, parce que Nietzsche, dans le fond, il le dit, il le confesse, il n'aime pas tellement la musique de Wagner, en fait.
Il change beaucoup d'avis.
Il est ébahi, non, mais il est ébahi par le personnage, et il croit que, au fond, Wagner va renouveler profondément la musique allemande. Parce que la question, c'est après Beethoven, quoi ? Qui ? Et donc, il croit en Wagner, il croit que c'est celui qui va succéder à Beethoven. Mais, dans le fond, il n'aime pas cette musique. Et il lui reproche d'être trop allemande, et parce que Nietzsche va se détourner de tout ce qui est allemand.
Ah oui, il exècre tout ce qui lui rappelle
compris la cuisine. Ça, il n'a pas tort. Et donc, il va être extrêmement violent par rapport à Wagner. Et quand il va, la dernière année consciente de sa vie, il va publier deux livres,
Le
cas Wagner et Nietzsche contre Wagner, où il est vraiment sans pitié pour Wagner. Il le traite de comédien, en fait. Il pense que sa musique n'est pas de la musique, mais du théâtre.
Oui.
Et Nietzsche a absolument horreur du théâtre.
Mais alors justement, ce théâtre, j'aimerais qu'on en parle, mais j'aimerais aussi qu'on parle quand même des changements d'humeur de Nietzsche, puisque Nietzsche écrit, et ça, on l'apprend dans votre texte, Frédéric Pajac, « Tout bien considéré, ma jeunesse n'aurait pas été supportable sans la musique de Wagner. » Mais il écrit aussi « Wagner est une névrose, il a rendu la musique malade, il rend malade tout ce qu'il touche. »
Ouais, c'est assez étonnant. Mais il faut le voir que il y a des dates différentes. Hein.
Oui, il y a une évolution.
Il y a une évolution, oui. Ouais. Et puis, mais ce qui est étonnant, en fait, je trouve le plus étonnant, c'est que Nietzsche considère la musique vraiment comme quelque chose qui participe du destin de l'humanité. Et ça, on a de la peine à comprendre ça. Parce que d'abord, on n'est pas au 19e siècle. Et à l'époque, les musiciens avaient une importance extraordinaire, quoi. Extraordinaire. Et quand Wagner commence ses concerts à Bayreuth, où il crée quelque chose pour un festival pour lui, à sa propre gloire, ça a des répercussions énormes. Et c'est pas seulement des répercussions musicales, c'est des répercussions politiques. Parce qu'en fait, on sait que Wagner était très antisémite, et donc c'était les Wagneriens étaient très souvent des antisémites virulents.
C'est étonnant qu'une idéologie puisse se transmettre par la musique, mais revenons au théâtre. Vous venez de soulever la détestation de Nietzsche pour le théâtre, qu'il qualifie de singerie des grandes marées de l'âme. Et Wagner a ce mot, « Je m'adresse à la partie la plus grotesque du public, celle qui va au théâtre ». Comment expliquez-vous que le théâtre ait aussi mauvaise presse chez eux, Frédéric Pajac ?
Oui, y compris... je ne sais pas. En fait, il ne fait jamais allusion à une pièce de théâtre. Je me demande si Nietzsche a été au théâtre. J'ai quand même lu sa correspondance attentivement, mais je n'ai pas le souvenir de Shakespeare, ni de Molière. Il n'y a pas de référence au théâtre. Je pense qu'il n'est même vraiment pas ça, quoi.
Alors, tout à l'heure, on a cité le chef d'orchestre Hans von Bülow, dont le jugement cruel sur la musique de Nietzsche l'a empêché de composer pendant plusieurs années. Il lui écrit notamment dans une lettre « Du reste, vous avez vous-même qualifié votre musique d'épouvantable et en effet, elle l'est. Cela vous nuit de ne pouvoir employer un éventuel surcroît de loisir autrement qu'en violant ainsi Euterpe. » Voilà, il termine sur la muse de la musique. Mais c'est terrible de dire ça.
En fait... Et von Bülow, et Hans von Bülow, et, et Wagner sont des personnages qui sont extrêmement durs. Moi, je trouve qu'ils ont beaucoup maltraité Nietzsche, justement, sur ses velléités musicales, quoi. C'est-à-dire, ils l'ont laissé aucune chance. Et il a été très affecté, parce que c'était quelqu'un de fragile, Nietzsche. C'est pas le surhomme que l'on croit.
200 crises de migraines par an. Il souffrait de l'estomac, des nerfs, il avait des migraines terribles, 200 par an.
Ben oui, non, sa santé était absolument déplorable.
Et des pensées suicidaires. Est-ce que vous pourriez nous lire un petit extrait, s'il vous plaît, Frédéric Pajac ? C'est page 31 dans votre texte, Nietzsche au piano.
Oui, il écrit ça à son amie Malvida von Meysenbug. Je n'exige plus rien de la vie, mais la vie, elle, exige encore quelque chose de moi. Et à cela, je ne me dérobe pas. C'est d'en avoir conscience qui, à deux reprises, m'a retenu du suicide, que je regardais en face avec la tranquille certitude d'avoir le droit de disposer de ma vie.
Nietzsche était très torturé.
Alors, je pense qu'il avait des accès de dépression il était très insomniaque. Il avait une vie très difficile. Hein. C'est quelqu'un qui pouvait vraiment broyer du noir, comme on dit. Et surtout quand il était à Gênes, surtout à Rapallo, à côté de Gênes. Et là, il était vraiment suicidaire, quoi.
Il enchaînait les consultations chez les médecins. On ne trouvait rien. Un médecin de Francfort lui a même interdit l'écriture.
Oui.
Il avait tout de même un fantasme, il avait ce bouillonnement intellectuel, ses idéaux et notamment ce rêve d'une musique dionysiaque. Et vous vous demandez, Frédéric Pajac, à quoi ça peut ressembler et vous émettez l'hypothèse du free jazz.
Oui, je ne vois pas à quoi peut ressembler une musique dionysiaque, surtout pas la musique de Nietzsche, à vrai dire, puisque sa musique, encore une fois, est très romantique. Et la musique dionysiaque, bon, je pense que ses amis avait une idée de ce que ça pouvait être dans ses improvisations, parce qu'il était très, très inventif dans ses improvisations et il ne cherchait pas particulièrement à faire une musique romantique, quoi. C'est en composant qu'il se réfrène, en fait. Mais qu'est-ce que c'est qu'une musique dionysiaque ? Surtout, on n'en a pas de traces. On n'a pas de traces parce que Nietzsche dit... qu'au fond, la musique de l'avenir est à chercher 2000 ans avant dans la Grèce antique. Mais on n'a aucune trace écrite, il n'y a pas de partition, et on ne sait pas, ça ne s'est pas transmis non plus. C'est probablement des chants accompagnés de sitar et de flûte, et qui sont... joué par des centaines de chanteurs, chanté par des centaines de chanteurs et joué par aussi des centaines de sitaristes. Et donc, le public se mêlait à ces chœurs et c'était une sorte de transe collective.
Comme dans la forêt que vous décriviez au début de l'émission, Frédéric Pajac.
Oui.
Dans la secte de musicothérapie.
Oui, tout à fait.
Je vous ai demandé un choix musical.
Oui.
Cette fois-ci, on rend un hommage à Cesare Pavese. C'est Léo Ferré qui chante en italien. Un petit mot avant qu'on l'écoute.
Ben pour moi, Cesare Pavese, c'est vraiment pour moi, hein, ça ne l'engage que moi, mais c'est le plus grand poète italien. C'est une poésie très simple, c'est une poésie qui n'est absolument pas ampoulée. C'est une poésie terrienne, avec un langage qui est le langage du Piémont, de sa région, des langues. C'est assez étonnant qu'un chanteur comme Léo Ferré se soit il en a interprété plusieurs des poésies de Pavese.
Et là, vous avez choisi Vera la morte.
Vera la morte avrà i tuoi occhi, questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera, insonne, sorda come un vecchio rimorso o un vizio assurdo. I tuoi occhi saranno una vana parola, un grido taciuto, un silenzio, così li vedi ogni mattina. quando su te sola ti pieghi nello specchio. Oh cara speranza, quel giorno sapremo anche noi che sei la vita e sei nulla, per tutti la morte a uno sguardo. Verrà la morte e avrai i tuoi occhi, sarà come smettere un vizio, come vedere nello specchio riemergere un viso morto, come ascoltare un labbro chiuso. Scenderemo, scenderemo, scenderemo nel gorgo muti, muti.
Cesare Pavese, chanté par Léo Ferré sur le morceau Verrà la morte. Frédéric Pajac, je vous ai demandé de faire découvrir quelque chose aux auditeurs. Vous avez choisi le dessinateur de presse Michael, qui est d'ailleurs publié dans votre collection des cahiers dessinés.
Oui, j'ai publié deux livres de lui. Le premier qui s'appelle Un Argentin à Paris, parce que Michael est un dessinateur qui est argentin et qui s'est installé à Paris à partir de 20 ans, l'âge de 20 ans. Et je fais un deuxième livre, enfin je publie un deuxième livre de lui qui s'appelle Entrée, plat, dessert. Et je publie en mai-juin, un troisième livre qui s'appelle Les actualités. Et je trouve que c'est un dessinateur qu'on peut voir dans Ciné Mensuel, dans Marianne, dans Le Monde parfois, et très régulièrement dans le supplément du week-end de La Croix, où il a une page entière. Et c'est un dessinateur qui vient un peu du New Yorker, qui vient de Sampé, c'est sa famille en fait. C'est quelqu'un qui ne cherche pas, il n'y a pas de violence dans son dessin, il n'y a pas de provocation, c'est tout en finesse, c'est quelqu'un de très politique en fait, et très sociologique je dirais même, et qui a un dessin très élégant, très aquarellé, tout ça, qui est très précis. C'est quelqu'un qui sait tout dessiner, qui n'hésite pas à placer des grands décors, à vraiment dessiner, à pas juste faire un gribouillis, quoi. Comme, hélas, beaucoup de dessinateurs de presse le font, mais...
La vie, composée par Nietzsche, interprétée ici par le baryton Dietrich Fischer-Dieskau et au piano Aribert Reimann en 89. Et c'est assez émouvant, Frédéric Pajac, puisque cet hymne est destiné à être ce qui restera de lui et plus tard chanté en mémoire de lui, et il n'en est rien.
Oui, il aurait voulu, quand il a composé ce morceau, il aurait voulu que ce soit joué par des grands musiciens allemands ou suisses ou peu importe, mais ou italien. Et puis, en fait, il a trouvé porte close partout. Et c'était vraiment... il a publié la partition à compte d'auteur pour la faire connaître. Et en fait...
Comme ses livres.
Comme ses livres, évidemment. Oui, on oublie toujours, mais Nietzsche vendait ses livres une centaine d'exemplaires. C'est quand même assez extraordinaire. C'est quand on imagine maintenant l'importance que Nietzsche a dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pays où on ne connaît pas Nietzsche, où il n'est pas traduit. Et donc, il publiait tout à compte d'auteur. Il mettait tout son argent là-dedans. Et puis, et c'était très compliqué avec son imprimeur, qui était éditeur, mais qui était plutôt en réalité un imprimeur, et qui faisait une petite diffusion, quoi. Mais donc, il l'a fait, il a édité cette partition, et il aurait voulu qu'on se souvienne de ce morceau-là.
Et puis, une folie le prend quand il publie cette partition, il l'envoie à celui qui l'a pulvérisé dans la lettre qu'on a citée avant, à Hans von Bülow, qui ne répond pas.
Oui, ça prouve que Nietzsche est toujours quelqu'un d'assez poli, assez respectueux. Alors, on peut appeler ça du masochisme, c'est quelqu'un qui y croit que son interlocuteur va... Il faut vraiment comprendre ça, c'est qu'il croit qu'il est un musicien. Il croit pas qu'il est un grand compositeur, ça il a pas, il se fait pas d'illusions, mais il sait que la musique est fondamentale pour lui, qu'il peut pas vivre sans musique.
Et vous citez d'ailleurs Frédéric Pajac dans Nietzsche au piano, vous citez Nietzsche qui affirme « Je me considère à tous égards comme un être de l'avenir, je ne doute pas vraiment qu'on s'intéressera un jour assez à moi pour ne pas négliger cette profession de foi musicale ». Et pourtant on n'en parle pas tant que ça. De ses créations musicales.
On n'en parle pas du tout.
Oui, mais là on en parle ce soir.
Oui, tant mieux.
Vous dites, Frédéric Pajac, que les auteurs et les artistes qui hantent vos livres ont presque tous en commun d'avoir été incompris de leur vivant. Leur œuvre n'a été reconnue qu'après leur mort, comme si la postérité les avait vengés. Pourquoi, à votre avis, cette accointance avec ces êtres ?
C'est vraiment, je me suis aperçu de ce point commun entre plusieurs des auteurs et artistes dont j'ai parlé dans mes livres, dans surtout Le Manifeste à certains, et qui est donc un livre en 9 volumes. Et là, j'ai parlé notamment de Pessoa, de Emily Dickinson, de Marina Tsvetaeva, de Van Gogh, de Walter Benjamin, de voilà, enfin. Il y en a plusieurs. Et c'est vrai que, par exemple, et Emily Dickinson, la poétesse américaine, et Pessoa n'ont jamais publié, n'ont jamais publié leurs poèmes. Et ils sont restés dans une malle. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que la sœur d'Emily Dickinson, quand elle est tombée malade, elle a dit à sa sœur, « Tu brûleras tous mes poèmes. » Je veux qu'il ne reste rien. Et évidemment, elle a désobéi.
Heureusement.
Un peu comme Max Brod avec Kafka, quoi.
Oui.
Donc, tant mieux qu'il y ait des gens qui... Et c'est vrai que la malle dans laquelle il y avait tous les manuscrits de Pessoa, c'est aussi quelque chose d'assez inouï, quoi. Et moi, je ne me suis pas aperçu... Je me suis aperçu plus tard, je me suis dit, mais c'est vrai, c'est un point commun. Et c'est quelque chose d'étonnant de voir que les auteurs les plus connus du monde, Van Gogh par exemple, le peintre le plus connu du monde, c'est quelqu'un qui n'a vendu qu'une toile de son vivant.
Frédéric Pajac, vous avez publié l'année dernière une nouvelle édition enrichie de l'ouvrage « Les musiciens de jazz et leurs trois vœux » aux éditions Buchet-Chastel. D'après le manuscrit, les photographies au Polaroid de la baronne Rothschild, passionnée de jazz, Panonika de Königswarter. Elle était amie des plus grands jazzmen et entre 61 et 66, elle a posé à 300 musiciens la question « Si on vous accordait trois vœux qui devaient se réaliser sur le champ, que souhaiteriez-vous » J'imagine que vous me voyez venir avec mes gros sabots, je vous pose la question. Trois vœux, Frédéric Pajac.
Alors, j'ai aucune idée.
Oh non.
Alors, non, j'ai aucune idée. Il faudrait que je réfléchisse trop longtemps. Mais parmi ces 300 musiciens, il y en a un qui est vraiment, il sort de l'ordinaire, c'est Miles Davis. Quels sont vos trois vœux? Il répond, être blanc.
Oh, c'est glaçant.
Oui.
Est-ce que vous faites toujours ce cauchemar où vous êtes entouré de fantômes de vous-même?
Je fais plus cauchemar, mais je l'ai fait. Et je l'ai fait jeune. Et j'étais entouré de moi-même, mais vieux. C'est ça qui est assez extraordinaire.
Et vous ne les avez plus vus, ces fantômes?
Non.
Alors ça va mieux, peut-être?
Ça va très bien.
Merci beaucoup, Frédéric
Pajac. Merci à vous, merci.
Votre livre, Nietzsche au piano, paraît dans 2 jours aux éditions Noir sur Blanc. Chez le même éditeur, est paru en janvier dernier dans Le Calme du Soir, couronné par le prix Flaubert. Aux éditions Buchet-Chastel, une nouvelle édition des musiciens de jazz et leurs trois vœux. Le 25 janvier prochain, vous ferez une lecture musicale de Nietzsche au piano, accompagnée par la pianiste Mathilde Peskin, à la Fondation Jan Michalski, à Montrichet, en Suisse, et à Paris, à l'Accord Parfait dans le 18e, le 15 et 16 février. À signaler aussi, la deuxième édition l'édition du Festival du Dessin dont vous êtes le directeur artistique et que vous avez co-créé se tiendra à Arles du 20 avril au 19 mai prochain et rendra hommage à Tommy Ungerer. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas et Joseph Ascal, à la programmation musicale Juliette L'Orphelin, à la technique Titouan Labarre.